imprimé. Alors, le texte biblique qui nous servira aujourd'hui pour le message du jour est tiré de l'Ancien Testament, le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1er, les versets 4 à 10. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Chers frères et sœurs, le récit de la vocation de Jérémie nous interroge sur plusieurs grandes questions auxquelles nos sociétés font face aujourd'hui. Sans avoir la prétention de faire le tour de ces questions, je vous propose d'en aborder quelques-unes qui sont d'ailleurs essentiellement d'ordre sociologique. Le but aujourd'hui n'est pas de faire de nous des sociologues. Moi-même qui suis devant vous, je n'en suis pas un. Mais le but est qu'ensemble nous réfléchissions à comment faire avancer positivement nos sociétés à la lumière du récit de la vocation de Jérémie. Je vous propose quatre points que ce récit nous donne à penser. Premièrement, c'est le sujet, le fameux sujet de la méritocratie. Une théorie selon laquelle seuls les mérites individuels peuvent et doivent donner à chacun et chacune une place dans la société. Deuxièmement, la place des défavorisés au sein de la société. Troisièmement, l'importance de penser une société autre, une société différente, et ce que cela implique comme action concrète. Et quatrièmement, dernièrement, je vous propose quelques mots de réflexion sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas mériter la place qu'on occupe. Ce qui me permettra de conclure en parlant de la promesse divine qui est une ouverture à la grâce pour chaque personne. Le premier point que je voudrais aborder est donc celui de la méritocratie. Nous vivons dans une société qui aime cette idée. Depuis notre enfance, on nous répète qu'il suffit de travailler, de fournir des efforts, de se battre, et chacun finira par obtenir ce qu'il mérite. C'est cela la méritocratie. L'idée que la place de chacun dépend essentiellement de ses qualités, de son intelligence, de son travail et de ses efforts personnels. À première vue, cette idée paraît profondément juste. Après tout, qui est-ce qui souhaiterait vivre dans une société où le travail ne serait pas récompensé? Et il serait faux de dire que le mérite ne compte pas. La Bible elle-même valorise l'effort, la fidélité, la responsabilité. Mais, frères et sœurs, depuis plusieurs décennies, les sociologues nous montrent que la réalité est beaucoup plus complexe. Nos sociétés ne fonctionnent pas seulement sur le mérite individuel. Elles fonctionnent aussi par ce qu'ils appellent la reproduction sociale. Qu'est-ce que c'est ? c'est le fait que nous héritons, toutes et tous, dès notre naissance, d'un certain nombre d'avantages ou de désavantages que nous n'avons absolument pas choisis. Deux enfants peuvent travailler avec la même assiduité à l'école sans disposer des mêmes chances de réussite. L'un grandit entouré de livres, de soutien scolaire, de parents diplômés, d'encouragement constant. L'autre grandit dans un contexte beaucoup plus difficile, avec moins de ressources, moins de temps, parfois moins de confiance en soi. Les efforts sont peut-être identiques, mais les conditions de départ ne le sont pas. La méritocratie oublie souvent ce point essentiel. Et inversement, la reproduction sociale montre que les inégalités ont tendance à se transmettre de génération en génération. Or, frères et sœurs, ce qui est remarquable dans le récit de Jérémie, c'est qu'il ne rentre dans aucun de ces deux modèles. Il ne rentre pas dans le modèle méritocratique parce qu'il reconnaît lui-même qu'il ne possède pas les qualités nécessaires à la mission. Il répond à Dieu en disant « Je ne sais pas parler, je suis un enfant ». Autrement dit, je ne suis pas compétent, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas prêt. Mais Jérémie ne correspond pas non plus au modèle de reproduction sociale. Le texte, juste avant notre extrait du jour, précise que Jérémie vient d'Anatote, d'une famille de prêtres. Son héritage familial le destinait naturellement au sacerdoce dans le temple. Mais Dieu le fait sortir de ce destin, il ne sera pas principalement prêtre, il sera prophète. La mission que Dieu lui confie ne correspond ni à ses compétences apparentes, ni à son héritage familial. Elle vient d'ailleurs. C'est là que le texte biblique ouvre une troisième voie. Entre le mérite individuel et le déterminisme social, Dieu introduit quelque chose de totalement différent, la grâce. La grâce consiste précisément à recevoir ce que nous n'aurions jamais pu nous attribuer, ni par nos efforts, ni par notre entourage. Dans la Bible, Dieu appelle souvent des personnes qui semblent les moins qualifiées. Moïse qui bégaye, Gédéon qui est le plus petit de sa famille, Amos est simplement un berger, Pierre est pêcheur. Paul a persécuté l'Église. Dieu ne choisit pas les meilleurs selon les critères humains, il appelle et cet appel suffit à produire ce qu'il demande. Autrement dit, ce n'est pas parce que Jérémie est capable que Dieu l'appelle, c'est parce que Dieu l'appelle qu'il deviendra capable. Le deuxième point, chers frères et sœurs, concerne la place des personnes défavorisées dans nos sociétés. Toutes les grandes études en sociologie montrent qu'ils sont malheureusement les victimes de nos systèmes. Ils ne peuvent pas compter sur des avantages liés à leur classe sociale, puisqu'ils sont issus des milieux défavorisés, et ils ne peuvent pas non plus espérer au mérite parce qu'ils commencent la vie avec des désavantages. Dans le récit de la vocation de Jérémie, le fait d'être jeune n'est pas seulement un stade de la vie, mais c'est aussi l'appartenance à une classe sociale défavorisée. C'est pour cela que Jérémie considère sa jeunesse comme un handicap. Dans la culture juive en général, être le plus jeune, c'est être quelque part défavorisé. Pensons à David. Lorsque Samuel vient chercher le futur roi, le père présente tous ses fils, sauf David, le plus jeune. Pensons également au droit d'aînesse, qui faisait que l'aîné était l'héritier d'une double part du patrimoine familial et on lui accordait d'occuper naturellement la première place. Les cadets vivaient dans une situation beaucoup moins favorable. À partir de là, frères et sœurs, beaucoup de récits bibliques prennent un relief nouveau. Pourquoi Dieu accueille favorablement l'offrande d'Abel plutôt que celle de Caïn ? Pourquoi Dieu choisit Jacob plutôt qu'Ésaü ? Pourquoi David plutôt que ses frères ? Pendant longtemps, certains ont cru que Dieu agissait de manière arbitraire ou injuste. Mais lorsqu'on replace ces récits dans leur contexte social, on découvre souvent autre chose. Dieu ne crée pas une injustice, il rééquilibre une société qui favorise spontanément les plus forts, les premiers, les installés, les héritiers, les puissants. Le Dieu de Jérémie continue aujourd'hui, frères et sœurs, à nous accompagner. Il continue aujourd'hui de regarder ce que les autres oublient. Et peut-être qu'il nous appelle. Il nous appelle à apprendre à regarder avec ses yeux. Troisièmement, frères et sœurs, le récit de la vocation de Jérémie ne se contente pas de dénoncer les limites de nos modèles de société. Il nous invite à imaginer une autre manière de vivre ensemble. Dieu lui confie une mission surprenante, arracher et renverser, détruire et démolir, bâtir et planter. L'ordre des verbes n'est pas tout à fait anodin. Avant de construire un monde plus juste, il faut parfois avoir le courage de déconstruire ce qui produit l'injustice. Cela ne signifie pas rejeter le mérite, ni la transmission familiale. Il est bon de reconnaître les compétences des uns et des autres, et il est bon de recevoir l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Mais lorsque ces réalités deviennent des barrières qui empêchent certains d'avancer, elles doivent être repensées. Jérémie nous invite alors à ouvrir une troisième voie, celle de la grâce. Une société inspirée par la grâce est une société qui ne demande pas seulement « qu'as-tu mérité ?» mais aussi « comment puis-je te donner une chance de grandir ?» La grâce ne remplace pas le mérite, elle permet simplement à ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances de pouvoir, eux aussi, déployer leurs talents. Enfin, quatrièmement, Jérémie nous parle de ce que les psychologues appellent aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être suffisamment compétent ou légitime. Beaucoup connaissent cette expérience. Et d'une certaine manière, nos sociétés fondées sur le mérite ou sur la reproduction sociale l'entretiennent. Si tout dépend de nos performances ou de notre origine, il est facile de se croire insuffisant. Jérémie lui-même dit « Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ». Mais Dieu ne répond pas en lui disant qu'il est meilleur qu'il ne le pense, il déplace son regard. La réponse de Dieu n'est pas celle d'un coach en développement personnel. La réponse de Dieu est théologique. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Frères et sœurs, la force de Jérémie ne viendra pas de lui-même, mais de la présence de Dieu. En définitive, entre la logique du mérite et celle de la reproduction sociale, le récit de la vocation de Jérémie ouvre le message ou le chemin de la grâce. Une grâce qui relève les plus fragiles, qui ose transformer ce qui est injuste et qui nous rappelle que notre véritable valeur ne dépend ni de nos réussites, ni de notre naissance, mais de cette promesse de Dieu qui demeure. Je suis avec toi. Amen.